Chapitre 85. Suivre son poursuivant. Les jambes de Pénélope flageolent. Elle s'appuie contre la clôture et fixe le bitume des yeux. Elle lutte contre son envie de vomir. Ce qu'elle a vu dans les toilettes, c'est comme imprimé sur sa rétine. Le visage mutilé, les dents, le sang. Le poids du gilet pare-balles l'attire vers le sol. Elle reprend peu à peu conscience de l'agitation qui règne autour d'elle. Les sirènes des ambulances ne cessent de hurler. Des policiers crient des instructions dans leur radio. Elle voit des ambulanciers courir avec une civière. C'est l'homme des toilettes. Il est allongé sur le dos. Son visage est recouvert, mais son sang a déjà imprégné les compresses. Saga et une infirmière s'approchent de Pénélope. Elles lui disent qu'elle est en état de choc.
« Ce n'était pas lui !»
dit Pénélope en pleurs, tandis qu'elle l'enveloppe dans une couverture.
« Un médecin viendra bientôt vous voir, » dit l'infirmière. « Mais je peux déjà vous donner un calmant. Est-ce que vous souffrez d'une maladie du foie ?»
Pénélope secoue la tête et l'infirmière lui remet une capsule bleue.
« Vous devez l'avaler. C'est un demi-milligramme de Xanor. »
« Xanor, » répète Pénélope en regardant dans sa main.
« Ça va vous apaiser et ce n'est pas du tout dangereux, »
explique l'infirmière avant de repartir d'un pas pressé.
« Je vais vous chercher de l'eau, »
dit Saga qui se dirige vers une voiture de police. Pénélope a les doigts gelés. Elle regarde à nouveau la petite capsule bleue dans sa main. Yonalina est toujours à l'intérieur du bâtiment. Des personnes recouvertes de suie et intoxiquées par la fumée sont encore escortées vers la sortie. Les diplomates sous le choc forment un petit groupe à côté de la barrière de l'ambassade du Japon en attendant leur transfert vers l'hôpital Karolinska. Une femme, vêtue d'une robe bleu marine, s'affaisse sur le sol et pleure sans pouvoir s'arrêter. Un policier s'installe à ses côtés, pose son bras sur ses épaules et lui parle d'une voix douce. L'un des diplomates passe frénétiquement sa langue sur ses lèvres et s'essuie les mains encore et encore, comme s'il n'arrivait pas à les nettoyer. Un homme plus âgé, au costume froissé, parle au téléphone d'un air stoïque. L'attaché militaire, une femme aux cheveux teints en roux, a essuyé ses larmes et tente d'apporter son aide aux ambulanciers. Le regard vide, elle tient une pochette de sang qui servira à une transfusion pendant que les ambulanciers déplacent un patient. Un homme assis se tient la tête dans les mains recouvertes de bandages. Il se lève et la couverture qui était sur ses épaules glisse à terre. Il marche lentement le long de la clôture, l'air absent. Un policier militaire pleure, une main appuyée contre un poteau. L'homme aux mains brûlées continue d'avancer dans la lumière du matin. Il contourne le bâtiment et prend à droite sur Gerdesgatan. Soudain, Pénélope a le souffle coupé. Une sensation terrifiante déferle dans ses veines, comme si on lui avait injecté de l'eau glacée. Elle n'a pas vu son visage, mais elle a vu son dos. C'est l'homme aux mains bandées. Elle sait que c'est lui le tueur. Il monte vers Gerdette, s'éloigne tranquillement des policiers et des ambulanciers. Elle n'a pas besoin de voir son visage, car elle a déjà vu son dos et sa nuque lorsqu'elle est passée en bateau sous le pont Skurusund, quand Viola et Björn étaient encore en vie. Pénélope ouvre sa main et laisse s'échapper la capsule bleue. Le cœur battant à tout rompre, elle marche dans sa direction. Elle bifurque sur Gerdesgatan, la couverture glisse de ses épaules, exactement comme lui, alors qu'elle accélère son allure. Elle commence à courir en le voyant se précipiter entre les arbres du petit bois en face. Il semble affaibli et doit avoir perdu beaucoup de sang. Elle sait déjà qu'il ne pourra pas lui échapper. Quelques choucas s'envolent de la cime des arbres et s'éloignent à tire-d'aile. Pénélope a rejoint le petit bois. En traversant les hautes herbes à grandes enjambées, elle sent sa force grandir en elle. Il n'est plus qu'à 50 mètres. Il titube et s'appuie contre le tronc d'un arbre. La bande de gaz qui entourait sa main se défait et pend mollement entre ses doigts. Il quitte le bosquet et se dirige en chancelant jusqu'à une grande pelouse baignée par la lumière du soleil. Sans s'arrêter, elle s'empare du pistolet que Yona avait accroché sur son dos, le regarde, ôte le cran de sûreté, avance encore un peu, ralentit et vise ses jambes.
« Arrêtez !» chuchote-t-elle en pressant la détente. Le coup part. Le recul propulse son bras et son épaule en arrière tandis qu'un reste de poudre brûle le dos de sa main. La balle est partie dans le vide et Pénélope voit que le tueur tente de courir plus vite.
« Tu n'aurais pas dû toucher à ma sœur, » se dit-elle.
L'homme traverse un petit chemin, s'arrête, se tient l'épaule, puis continue à travers la pelouse. Pénélope court, pénètre dans la lumière du soleil, croise le chemin qu'il vient de passer et lève à nouveau son arme.
« Arrêtez !» crie-t-elle.
Le coup part et elle voit la balle arrachée de l'herbe de la pelouse 10 mètres devant lui. Pénélope est gagnée par une poussée d'adrénaline. Elle se sent tout à fait lucide et concentrée. Elle vise et tire à nouveau. Elle entend la détonation, sent le recul dans son bras et voit la balle pénétrer le pli du genou et ressortir par la rotule. Le tueur pousse un hurlement de douleur et s'écroule dans l'herbe. Il tente de ramper, mais elle se précipite vers lui et il s'adosse contre un bouleau.
« Arrête !» pense Pénélope en le visant à nouveau avec son arme. « Tu as tué Viola. Tu l'as noyée dans une bassine. Tu as tué Björn. Vous avez assassiné ma petite sœur !» dit-elle à voix haute. Elle tire. La balle pénètre son pied gauche et du sang gicle sur l'herbe.
Lorsque Pénélope arrive à sa hauteur, il est toujours adossé contre le tronc d'arbre, mais son menton repose contre sa poitrine. Il saigne abondamment, halète comme un animal, mais ne bouge pas. Elle s'arrête devant lui, à l'ombre de l'arbre, et pointe le canon de son arme sur lui.
« Pourquoi ?» demande-t-elle à voix basse. « Pourquoi est-ce que ma sœur est morte ? Pourquoi est-ce ?»
Elle se tait, déglutit et s'agenouille pour voir son visage.
« Je veux que vous me regardiez quand je tire !»
L'homme humecte ses lèvres et tente de relever la tête. Elle est trop lourde et il n'en a pas la force. Il est sur le point de perdre connaissance à cause de tout le sang qu'il a perdu. Elle pointe son arme sur lui, puis tend l'autre bras pour soulever son menton. Elle l'observe, et ses mâchoires se crispent lorsqu'elle reconnaît les traits fatigués du visage illuminé par un éclair sur l'île de Kimendeu. Elle se souvient désormais de l'expression calme de son regard et de la cicatrice en travers de sa bouche. Il n'a rien perdu de son flegme, et elle se dit que c'est étrange qu'il n'ait pas la moindre peur d'elle quand subitement il attrape ses cheveux avec une rapidité déconcertante et la tire vers lui. Il la serre tellement fort qu'elle tombe en avant contre sa poitrine. Elle n'a pas le temps de s'écarter qu'il a déjà changé de prise et saisit ses poignets pour s'emparer de son arme. Elle le repousse de toutes ses forces avec ses bras et ses pieds, tombe à la renverse dans l'herbe et lorsqu'elle relève la tête, il tire 2 coups successifs.